Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans les débats d'Europe Soir sur le format de Punchline. Vous avez pris l'habitude. C'est une crise diplomatique sans précédent. Les ambassadeurs de France à Washington et à Canberra ont été rappelés dans la foulée de l'affaire des sous-marins. Un coup dans le dos, a clairement dit Jean-Yves Le Drian cette semaine. Washington espère pouvoir évoquer ce différend avec la France lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Mais pour l'heure, c'est une ambiance de guerre froide. Peut-être pas encore de guerre froide, mais en tout cas, le climat s'est largement refroidi. Quelle suite à ce différend? Quelles conséquences pour les Français? On parle de près de 60 milliards de dollars quand même. Sachant que l'exportation de matériel fait partie de la stratégie de défense française, les Américains disent avoir prévenu les Français, ce que réfutent les Français. C'est aussi toute la géopolitique de l'Indo-Pacifique qui est rebattue. On en parle avec nos débatteurs dans un petit instant. La politique en France est Anne Hidalgo qui, d'une certaine manière, prend le large. Le fait de ne pas assister au congrès de son parti, le 79e, et donc de ne pas assister à la réélection à la tête du parti de son ami Olivier Faure, laisse planer le doute. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Cela joue-t-elle cavalier seul, façon Xavier Bertrand? S'il y a une primaire, va-t-elle de toute façon se présenter? Anne Hidalgo va en guerre. On en parle également dans cette première heure. Après le journal de 19h, les chasseurs, ils sont en colère et ils manifestent aujourd'hui. En cause, une décision du Conseil d'État d'août dernier qui interdit plusieurs techniques de chasse traditionnelles d'oiseaux avec l'intermédiaire de filets ou de cages, en conformité avec la directive européenne oiseaux de 2009. Que les urbains nous foutent la paix, scandent les chasseurs déployés à Caen, Charleville-Mézières, Fort-Calquier, Mont-de-Marsan, Amiens ou Redon, dénonçant les talibans du Paristan, les idéologues de la capitale, les végétariens et les véganes n'ont pas à faire la police de l'alimentation, scandait-il ce matin. Xavier Bertrand est venu se joindre à eux à Amiens, précisant que lui, président, n'interdira jamais la chasse et enjoignant Emmanuel Macron de sortir de son ambiguïté. Il dit qu'Emmanuel Macron soutient la chasse et que son gouvernement fait tout le contraire. Les chasseurs, chassant, chassés, sans leurs chiens, on en parle tout à l'heure, après le journal de 19h. Et puis vers 8h-20, ce message pour terminer, nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Véridique, c'est ce qu'écrivait hier la PHP dans un mail à ses patients. Car mercredi, la PHP a porté plainte pour le vol des données personnelles d'environ 1 400 000 personnes, des patients qui tous ont fait un test de dépistage du Covid-19 à la mi-2020 en Île-de-France. Nous vous recommandons la plus grande vigilance, notamment s'agissant de tentatives d'escroquerie ou d'hameçonnage qui pourraient survenir dans les prochaines semaines. Les hôpitaux de Paris conseillent de faire attention aux mails, aux appels téléphoniques et aux SMS que pourraient recevoir les patients. Le grand bug de la PHP, on en parle aussi tout à l'heure, comme de tous ces sujets, avec Patrick Caram, vice-président de Libre, vice-président de la région Île-de-France, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Sylvain Maillard, pardon, député LREM de Paris,
bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Avec Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du Figaro,
bonsoir.
Bonsoir. Et dans un petit instant avec Ludovic Toro, qui est toujours là. Bonsoir. Médecin, maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Il va s'asseoir dans un instant. Bonsoir à vous quatre. Europe 1, il est 18h.
Europe Soir Weekend, 18h-20h,
Pierre de Villeneuve.
Et donc depuis jeudi, date à laquelle les Australiens ont finalement dit non aux sous-marins français, le climat s'est considérablement rafraîchi entre Paris d'un côté et Washington et Canberra de l'autre. Hier soir, deux ambassadeurs de France, et non des moindres, sont donc rentrés dardard pour consultation à Paris. Ce rappel, geste pour le moins inhabituel, ça veut dire quoi en coulisses, Jean-Sébastien Soldaini?
Bien, en langage diplomatique, le rappel d'un ambassadeur, ça montre qu'on est vexé. C'est vécu comme un camouflet par Paris. Camouflet sur le principe et camouflet sur la forme. Sur le principe d'abord, car comme l'a souligné Jean-Yves Le Drian, c'est un coup dans le dos et entre alliés, ça ne se fait pas. Sur la forme ensuite, parce que la France a découvert cela par des rumeurs dans la presse outre-Atlantique et parce que jusqu'au bout, les Australiens se sont comportés comme si de rien n'était dans la tente de leur sous-marin. Il faut donc marquer le coup. C'est pour ça que la France rappelle ses ambassadeurs. C'est la partie visible des tensions qui viennent de naître et ça promet pour l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'ouvre la semaine prochaine D'autant que c'est sans précédent, ce n'est pas arrivé depuis 1778, depuis le traité d'alliance entre la France et les USA. Le texte prévoyait une paix éternelle, alors nous n'allons pas entrer en guerre avec l'Australie et les États-Unis, ni même rompre nos relations diplomatiques. Tout l'enjeu maintenant, au-delà d'obtenir des excuses et des compensations, c'est surtout de rétablir la confiance.
Et merci Jean-Sébastien Soldaini, et vous le citiez, Jean-Yves Le Drian s'est exprimé, c'était jeudi matin, on l'écoute.
C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère, avec beaucoup d'amertume sur cette rupture.
Et vous avez
d'autant
prévenu...
plus que ça ne se fait pas entre alliés. Et ça ne se fait pas en plus quand il y a eu d'abord 2 ans de négociations pour ce contrat.
Crise sans précédent, justement. Crise sans précédent, crise diplomatique, on ne parle pas encore de guerre froide, attention, hein, mais évidemment, Sylvain Maillard, bah, c'est difficile.
C'est un très mauvais coup. C'est un très mauvais coup que nous ont fait nos alliés américains, que nous ont fait nos alliés australiens. Et je crois que le rappel des ambassadeurs, c'est l'acte ultime avant une rupture des relations diplomatiques. Donc c'est un acte fort. Et on a voulu exprimer, le Quai d'Orsay a voulu exprimer exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire un mécontentement extrêmement fort. Moi, je voudrais juste rappeler une chose très concrète. Quand on a vendu des sous-marins à l'Australie, on l'a vendu avec une technologie diesel. Pourquoi ? C'est-à-dire que les moteurs ne fonctionnent pas comme les moteurs français des mêmes types de sous-marins au nucléaire, parce qu'il est interdit, entre partenaires de l'OTAN, il est interdit de vendre de la technologie militaire nucléaire à un pays qui ne possède pas cette technologie nucléaire. Or, c'est exactement ce que viennent de faire les Américains. Ils vendent pour la première fois de la technologie militaire nucléaire à un pays qui ne la possède pas. C'est aussi ça, la rupture. Au-delà du contrat, au-delà des emplois que nous allons perdre, au-delà des données financières.
C'est un risque pour la zone Indo-Pacifique.
C'est un risque, mais surtout, c'est une rupture dans la doctrine entre alliés. Et donc, c'est un changement de pied brusque, non annoncé, qui va changer beaucoup de choses. Et donc, il faut que les États-Unis éclaircissent leur position. Il faut que les Australiens éclaircissent leur position. On ne va pas passer comme ça à autre chose. Il nous faut des explications.
Ludovic Toro, votre avis là-dessus. Vous êtes maire UDI de Coubron et vous êtes médecin.
On n'est pas dans le monde des bisounours, hein. On a Joe Biden, Boris Johnson et Scott Morrison qui se parlent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et nous, on n'a rien vu arriver. On fait vous faire croire qu'on a reçu du jour au lendemain qu'on a annulé ça. Ça veut dire quoi ?
Les Américains disent qu'ils ont prévenu les Français.
Mais alors, on le sort, alors c'est pire. Parce que Jean-Yves Le Drian, qui se sent un couteau dans le dos, il aurait pu le dire un peu avant, pour préparer les choses. Donc, à la limite, on verra. Maintenant, on a rappelé les ambassadeurs, on a annulé une fête qui avait lieu là-bas sur l'indépendance. Mais entre vous et moi, ils ont déjà tout pesé ça, ces superpuissances. Okay ? Maintenant, voilà, ils ont un problème clair avec la Chine, comme nous devrions l'avoir nous en Europe, d'accord ? Donc les Australiens, ça fait longtemps qu'ils sont en guerre avec les Chinois pour les problèmes d'exportation. Les Américains, ils ont bien compris, ils ont comme ennemi, économique. Voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a mis un contrat qu'ils ont annulé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien. Quand vous faites un contrat dans votre vie civile ou nous, en tant que maire élu, on a quand même des pénalités si on annule. Donc ça veut dire que là, il n'y a aucune pénalité. On s'assoit sur plusieurs...
Donc vous demandez des explications ce soir.
Ah mais tout le monde, parce qu'on sait très bien qu'on est à quelques mois des élections présidentielles, et c'est un camouflet, évidemment, des autres, on peut les accuser, mais aussi on doit s'accuser nous-mêmes.
Il y a des pénalités, il y a aussi des familles australiennes qui sont venues s'installer en France, parce qu'il y a eu la construction commune de ces sous-marins. On a passé des reportages toute cette semaine, toute cette fin de semaine sur Europe 1, Alexandre Devecchio, sur cette rupture comme ça, brutale, effectivement.
En réalité... Elle était prévisible, peut-être pas sur ce contrat-là, mais ça dénote un changement stratégique des États-Unis qui n'est pas nouveau, qui avait commencé avec Obama, qui a été amplifié par Donald Trump, et on critiquait Donald Trump. Or, il avait une stratégie qui était claire, c'était de désigner un nouvel ennemi. Et là, je rejoins ce qui a été dit, cet ennemi est aussi le nôtre, c'est la Chine. De nouvelles relations diplomatiques fondées beaucoup plus sur la puissance et les rapports de force, mais tout simplement parce qu'on est dans un monde où les rapports de force face à de nouveaux ennemis vont être de plus en plus importants. Et je pense que s'il y a une leçon à tirer pour l'Europe, c'est sans doute, et pour la France, mais pour l'Europe aussi, c'est sans doute qu'ils n'ont pas compris qu'on était rentré dans un nouveau monde de nations fortes, d'affrontements, et on peut regretter qu'on n'ait pas fait plus d'efforts pour s'armer, pour renouer avec une logique de puissance et d'indépendance stratégique. Donc ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'après ce camouflet, on devienne un peu plus réaliste. Je parlais du changement de pied de Donald Trump et des États-Unis. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que la Grande-Bretagne est dans le deal, si j'ose dire. On avait dit, oh, mais Boris Johnson, etc., ça va être une catastrophe pour les Anglais, ils sortent de l'Europe, ça va être la catastrophe économique, etc. On voit bien que les Américains se sont tournés plutôt vers Boris Johnson et la Grande-Bretagne que vers l'Europe et vers la France. Donc il faut, en tirer les conclusions.
C'est une hypothèse qu'on avait déjà soulevée du temps de Theresa May. C'est-à-dire que s'il y avait eu un Brexit, il y aurait sans doute eu des relations plus proches entre Washington et Londres.
C'est une hypothèse que certains faisaient, mais la majorité médiatico-politique nous expliquait quand même que ça allait être que le dindon de la farce allait être l'Angleterre. Ça n'a pas été le cas.
Patrick Karam.
En 1977, de mémoire, Brzezinski, qui était conseiller de Carter, publiait un ouvrage extrêmement intéressant qui disait qu'en clair, nous allions devoir affronter deux ennemis. L'islamisme, on réussira à vaincre, et puis la Chine.
La Chine.
Voilà. Donc, déjà en 1977, il avait déjà campé.
Faut que vous nous expliquiez tous les quatre, quand même, le rapport avec la Chine.
Non, parce
On dit la Chine.
C'était sa projection, comme superpuissance et comme concurrent des États-Unis. Voilà, c'est très exactement le scénario auquel on assiste aujourd'hui. Je veux dire deux choses. Il y a d'abord deux dates, deux coïncidences de dates. Premièrement, il y a 15 jours avant donc, la rupture de ce contrat, deux ministres de la Défense sont ensemble, deux ministres des Affaires étrangères sont ensemble et font des communiqués, Australie et Français, pour dire « formidable, on célèbre le partenariat stratégique ». 15 jours avant. Vous croyez qu'un contrat se noue et se négocie un contrat aussi important en quelques jours, mais je vous signale que c'est extrêmement complexe. Il y aura des questions de transfert de technologie. C'était déjà le cas pour les sous-marins, parce qu'il faut construire sur place, et il faut effectivement... on avait pris des engagements qui rendaient extrêmement complexe son contrat, à tel point que l'opérateur, c'est-à-dire l'entreprise, avait pris du retard, avait fait progresser les prix. Ça avait mécontenté les Australiens. Il a fallu qu'en juin, Macron s'investisse personnellement et tente d'apaiser le jeu avec le Premier ministre australien. Donc, il y avait déjà...
Enfin là, on sait que ce n'est pas une question de prix.
Il y a déjà... Alors, il y a ce sujet qui était sur la table, le mécontentement des Australiens qui avait donné à l'opérateur, à l'entreprise française jusqu'à septembre pour régler la question et commencer à faire ses livraisons. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les Américains sortent d'Afghanistan sans prévenir personne. Et là, de nouveau... ils arrachent un contrat sans prévenir personne. C'est-à-dire qu'on renoue avec l'unilatéralisme américain. On pensait qu'avec Trump, l'après-Trump, c'était la fin de l'unilatéralisme américain, qu'on allait être dans un monde composé de dialogue entre les uns et les autres, que Biden allait être plus conciliant. Non, Biden est comme n'importe quel président américain, défend d'abord les intérêts américains. Troisième élément, les Australiens ont considéré que face à la menace chinoise qui a progressé depuis l'époque où le premier contrat avait été signé, c'était l'époque de François Hollande. De mémoire, ça devait être 2016 ou 2017. Ils ont considéré que la menace chinoise avait progressé et que la France n'était sans doute pas capable d'assurer la sécurité de l'Australie. Et donc, ils ont décidé de s'adosser à un pays qui pourrait leur donner ces garanties-là. Et comment arrimer ce pays ? Eh bien, puisqu'il y a une obsession australienne, une obsession de la Chine, il y a une véritable obsession, eh bien, il faut pouvoir mettre en place
tout un volant
économique, etc. Moi, ce que vous avez dit, M. Maillard, est très intéressant. C'est qu'on va vendre une technologie, pas nous, les Américains, nucléaire, avec les Anglais, bien, une technologie nucléaire à un pays non nucléaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le signal qu'on donne aux pays voisins...
Une technologie nucléaire militaire.
J'aurais dit bien le militaire. Signal qu'on donne aux voisins, je pense, à d'autres pays qui vont être décomplexés pour ça, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Iran, etc. Eh bien, messieurs, on ne va pas pouvoir vous donner...
J'attendais quelqu'un, voilà.
On ne va pas pouvoir vous donner des leçons. Là, on a vraiment, là, on navigue dans une nouvelle configuration. Et la France, eh bien, la France a été le nom de la farce. Et dernier point, que peut faire la France ? Vous voulez que je vous dise ce qu'elle peut faire ?
Ben oui, volontiers.
Rappeler ses ambassadeurs, oui, mais c'est purement symbolique. Même si la symbolique est extrêmement puissante, elle ne peut pas aller au-delà. Et je vais vous dire pourquoi. Sanctions économiques contre les États-Unis, qui est un très grand partenaire économique. Allons, ne commençons pas à rêvasser. Contre la Grande-Bretagne, on a dit qu'il fallait punir la Grande-Bretagne et que le Brexit allait signifier la fin de la Grande-Bretagne, la pauvre, mise au banc des nations.
Il a raison.
Et on allait punir cette Grande-Bretagne. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne donne une leçon. Elle revient dans son concert international. Elle arrache un marché avec les États-Unis. Elle joue l'intermédiaire.
On ne peut
parce
rien faire.
Parce que le volant d'affaires, c'est entre la Grande-Bretagne et son ancien condominium.
Évidemment que non. Vous vous rendez bien compte, et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, cette décision de rappeler les ambassadeurs français d'Australie et des États-Unis, c'est une décision forte qui va obliger les États-Unis à bouger. On est le plus vieil allié des Américains. Je vais vous expliquer.
Que vont
juste
faire
un
les
exemple.
Américains
rappelez-vous,
qui disent on va se parler à l'Assemblée générale de l'ONU dans quelques jours.
Il y a deux choses. D'abord, qu'on éclaircisse cette doctrine qui vient d'être entachée de dire on vend du matériel militaire nucléaire à un pays qui ne le possède pas. Les États-Unis vont devoir s'expliquer là-dessus. Deuxième chose, si la doctrine change et que nous l'acceptons globalement à l'OTAN, donc c'est un changement radical qui impliquera, on a parlé de l'Iran, mais d'autres pays. On voit bien qu'il risque d'avoir une prolifération nucléaire militaire partout dans le monde.
Instantanée.
Ça veut dire que derrière, est-ce que la France participera à un changement de pied, à une construction comme on a pu le faire dans un autre exemple, mais qui peut donner une image. Quand on avait perdu les trains, vous vous rappelez, Bombardier avait pris le pas sur Alstom, et puis ensuite, il y avait eu une négociation très claire où, en fait, Alstom a construit les trains que Bombardier avait gagnés. On peut imaginer qu'aussi, à un moment, il y a une construction, tout simplement, puisque nous avons les ingénieurs, nous avons une base sur place, dire que les Français construiront ces sous-marins, mais avec une autre technologie. Mais je le redis bien, attention, ce que viennent de faire les Américains est un changement stratégique, dramatique, s'il n'est pas consensuel et s'il n'est pas mesuré pour les années qui viennent. Ça veut dire une chose, la prolifération nucléaire militaire
vous est mettez engagée. Vous mettez en garde les Américains, en même temps, les sanctions contre les Américains.
On a Alexandre un papier dans le Figaro Vox, on a un papier d'Edouard Tétouot qui propose quelque chose qui me paraît pas.
Quelque chose, c'est-à-dire qu'on tâtonne pour contrer les Américains.
Inintéressant, qui dit nos administrations publiques devraient arrêter de choisir des banques américaines parce que le Patriot Act en plus oblige ces administrations à fournir
Français,
un certain nombre de données.
Que les Français arrêtent de choisir des banques américaines.
Non, pas tous les Français, pas toutes les administrations publiques, quand elles ont des dossiers d'affaires, etc.
En tant que banque d'investissement.
En tant que banque d'investissement.
Donc JP Morgan,
exactement, arrête avec les Américains, d'autant plus... Ouais. D'autant plus que le Patriot Act exige on donne un certain nombre de données qui peuvent en plus, dans ce type de contrat, donner des informations importantes aux États-Unis. Donc je trouvais que c'était une mesure qui n'était pas stupide.
Mais est-ce qu'on ne rentre pas dans un engrenage après ? Justement.
Non, mais
la personne qui répond.
Là. Non, mais là, non.
Parce que, je
vais vous
répondre.
Non, mais il faut être très clair.
Vous souvenez, vice-président de la région Île-de-France.
Oui. Lorsque les Marocains. Lorsqu'il y a eu sur. Les Marocains nous avaient avaient espionné le président de la République. Alors on verra ce que ça va donner, les procédures, etc. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Et c'est le petit Maroc. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une grande puissance mondiale ? On dépend encore des États-Unis pour notre sécurité. On n'est pas capable de faire une guerre plus de 15
Vraiment
jours si on n'a pas un soutien américain. On n'est pas capable aujourd'hui de se projeter dans le monde comme on l'a vu.
On dépend lorsque des Américains pour notre sécurité.
On dépend des Américains de manière globale pour notre sécurité, oui. Et l'Europe qui ne s'est pas constituée en champ puissance, c'est ça le sujet.
L'Europe est absente. De la défense en construction,
mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui un sujet, une Europe qui va mesurer la taille des filets, des ortholans, Taliban et qui va essayer de faire la chasse.
Ça,
non, mais c'est un sujet.
Oui, oui,
L'Europe
je sais, mais
s'occupe
mais
de ceux qui ne la regardent pas. L'Europe s'occupe de l'essentiel. Vous et moi, nous avons voulu l'Europe pourquoi ? Nos parents ont voulu l'Europe pourquoi ?
Pourquoi est-ce que vous me regardez ? Est-ce que
pour peser dans le concert du monde, pour tenir la dragée haute à d'autres pays. Et qu'est-ce qui se passe là sur l'Australie ? On dit à l'Europe, voilà, vous avez des négociations en cours avec l'Australie. Ben, soyez solidaires. Ces négociations de libre-échange, interrompons-les. Et que disent les Européens et ceux qui sont en charge de la négociation ? Ben non, c'est pas d'actualité. On continue à négocier avec l'Australie.
Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de pays européens qui nous défendent, là ? Il n'y en a pas un qui bouge hein, pour dire au secours, au secours. Elle est où, cette unité européenne, où un des plus grands pays, quand même, vient de se faire bafouer hein. Personne ne bouge. En fait,
point taken, bonne remarque.
Bah, c'est important, c'est ça l'unité. C'est-à-dire que c'est comme pour la Covid, chacun pour soi. Non mais c'est pas sérieux. Là, on aurait attendu de tous les pays russes et de Mme Ursula von der Leyen qu'elle bouge un peu, qu'elle dise « Ah, c'est pas bien, messieurs ». Non, non, on laisse la France toute seule, on trouve des parades, mais on ne pourra pas. Il faut arrêter de rêver, on ne va pas rentrer. Vous croyez que les trois, là, ils n'ont pas réfléchi à ce que va faire la France après ? Mais ils ont déjà tout planifié depuis des mois et des mois. Et ils savent de toute façon qu'ils ne pourront rien faire. Vous avez raison, il y a un geste
Sylvain
à faire.
Non, ne soyez pas négatif, ne soyez pas toujours dans le France bashing. Vous savez bien
qu'il
y aura une fuite et que ça ne terminera pas comme
oui,
ça.
Oui, vous savez ce qui va se passer, je vais vous le dire.
Par contre, on ne sait pas sur le plateau à l'heure actuelle ce qui se passera.
Le scénario le pire, j'ai l'impression, Ludovic.
Non, le scénario d'abord. Ils savent très bien qu'on n'a aucun poids, et je ne veux pas le dire, mais l'image de la France au niveau mondial n'est plus ce qu'elle était. Sinon, on aurait appelé M. Emmanuel Macron depuis des mois, « Cher Emmanuel, nous allons arrêter ». Mais je ne crois pas que ça a été fait. Ou alors ça a été fait, mais on ne l'a pas su. Ils n'ont pas prévu, monsieur.
Ce n'est pas encore le fin.
Voilà, on va le savoir, j'espère. Ouais. Il va pas falloir une Cour de justice de la République pour savoir la vérité, j'espère. Donc tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les quatre puissances principales dans vente de matériel militaire, c'est la Chine, numéro un, après les États-Unis, après la France, après la Grande-Bretagne. Donc il y a la Chine, et ben les États-Unis sont mis avec la Grande-Bretagne. Il y a aussi ce côté militaire, il ne faut pas exagérer. Et notre dépendance économique, on va peut-être en parler, mais on a bien vu qu'on est hyper fragile. C'est-à-dire qu'à un moment où un pan majeur de notre vente en exportation, qui sont le matériel militaire, on perd plusieurs milliards. Donc voilà. Maintenant, je ne crois pas, enfin on verra, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont nous faire d'autres contrats hein, pour acheter un train, un Thalys, une chose comme ça, pour nous donner un peu d'argent.
Appelez ça un lot de consolation ?
Mais évidemment, ils ont déjà tout prévu, puisqu'on a dit... Et d'ailleurs, écoutez l'Australie, écoutez l'Angleterre et écoutez les États-Unis. Ils n'ont pas l'air inquiets. Hein. On leur parlera plus tard.
Une première pause dans les débats d'Europe Soir. On vient juste après et on parle de cette crise des sous-marins tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Les débats d'Europe Soir avec le rédacteur en chef au Figaro, Alexandre Devecchio, avec le vice-président de la région Île-de-France du Parti Libre, Patrick Caram, avec Ludovic Taureau, maire UDI de Coubron, et le député LREM de Paris, Sylvain Maillard, qui devait justement, avant la pause, répondre à Ludovic Taureau sur cette histoire de lot de consolation. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir un train à construire ? Parce que de toute façon... Cette histoire-là, ce contrat-là, il est fini, Sylvain Maillard.
Vraiment, je voudrais redire à quel point le changement de doctrine des Américains est quelque chose de grave. Je le redis. À côté de ça, les Américains, les Australiens ne vont pas en rester là. Et vont évidemment, je l'imagine, et en tout cas, c'est le travail de notre diplomatie et de nos grandes entreprises, faire en sorte qu'il y ait une compensation. J'ai entendu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de pénalité dans ce contrat. Bah, écoutez, moi, je ne connais pas ce contrat, le détail du contrat. Je crois qu'il y a un droit des affaires et aucun d'entre nous autour de cette table ou qui écoute cette émission, je crois, ne sait exactement ce qu'il y a dans ce contrat. Donc, ne tirons pas à boulet rouge en faisant du friends bashing. Il y a un acte, encore une fois, très grave des Américains. Il faudra qu'il y ait une réponse. Le porte-parole de la Maison-Blanche a fait un communiqué d'apaisement et en disant que nous étions, et rappelant que nous étions leur plus vieil allié. Et donc, j'imagine... Et j'imagine qu'eux-mêmes vont réfléchir à faire en sorte que les Français ne soient pas mis de côté, probablement sur ce contrat-là, mais au-delà de ça, sur le développement des futurs contrats avec l'Australie ou d'autres pays.
Il y a un acte, et puis il y a un acte fait par le président américain Joe Biden qui sort de la débâcle, ce qu'on a appelé la débâcle de l'Afghanistan, et qui a un rôle à jouer aussi pour les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi ?
Non, mais qu'on parle. Qu'on soit très clair. En France, moi, j'entendais très souvent des gens nous expliquer Donald Trump a une position qui n'est pas celle de l'Amérique. Et quand Joe Biden va arriver, ça va totalement changer. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient fondamentalement, la politique américaine vis-à-vis de ses alliés et vis-à-vis de l'extérieur
est exactement la même et elle remonte, comme vous l'aviez dit tout à l'heure,
à Obama.
À Obama, il y a un changement de doctrine en très clairement en pointant la Chine comme l'adversaire économique et en faisant en sorte que le reste du monde va probablement se partager entre la Chine et les États-Unis. Moi, je rappelle juste dans un domaine que je connais bien, les semi-conducteurs. Très clairement, il y a une guerre qui est engagée depuis bien longtemps, ce qui explique aussi la pénurie que nous avons à l'heure actuelle, avec une technologie chinoise et une technologie américaine. Les Américains vont rendre impossible aux Chinois d'accéder à leur technologie de semi-conducteurs, et les Chinois sont en train de chercher une parade pour se construire des alliés qui vont pouvoir partager leur technologie. Et nous, c'est vrai que les Européens, nous sommes pris entre deux feux. Il va falloir choisir, il va surtout falloir affirmer ce que nous sommes, c'est-à-dire la première puissance économique mondiale, de se comporter de la sorte, d'exiger que nos normes soient appliquées à l'étranger et de faire en sorte de rayonner et d'être agressif. Parfois, l'Europe, globalement, a été
Alexandre
molle.
De Vecchio, le rôle de Joe Biden dans cette histoire des sous-marins, il est crucial.
Oui, il est crucial, ça a été dit, il y a un changement stratégique. Moi, je pense que vous avez parlé de débâcle d'Afghanistan. Alors certes, la manière dont ils sont partis, effectivement, a donné une mauvaise image, était assez calamiteuse, mais je crois que ce n'est pas une débâcle, c'est un choix stratégique, et c'était sans doute le bon choix stratégique pour les États-Unis.
Il
s'embourbait dans une guerre depuis 20 ans qui ne servait absolument à rien.
Il a écouté son électorat, d'ailleurs.
Exactement, alors qu'aujourd'hui, l'adversaire des États-Unis, c'est très clairement la Chine. Nous, on n'en a pas fini avec le terrorisme islamiste, mais à la limite, les États-Unis sont quand même plus loin de ces ennuis-là que nous. Et effectivement, la Chine est un adversaire, c'est d'une puissance économique ascendante. Donc on a en quelque sorte deux empires. Hein. Thucydide disait quand il y avait un empire déclinant et un empire ascendant, ça se terminait pratiquement toujours par une guerre. Hein. Ça remonte depuis Sparte et Athènes, on sait ça. La Chine qui, pour l'instant, pratique une forme de colonisation économique avec la route de la soie, etc. Mais on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Je pense que les Australiens sont vraiment inquiets aussi pour leur territoire. Et s'ils ont choisi de s'allier avec les États-Unis, c'est parce qu'on n'était pas crédible en termes de défense, tout simplement, en termes d'armement d'une part,
en
termes de réaction si demain il y a un conflit armé entre la Chine et l'Australie, ou en tout cas entre des pays périphériques.
En tout cas, il y avait une carte à jouer et Joe Biden l'a joué.
Oui, Joe Biden poursuit sa stratégie. Ce sont les plus forts, ça a été dit. Alors, je pense qu'on ne peut pas se résoudre à dire ce sont les plus forts et il n'y a rien à faire. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des réactions, même si elles sont symboliques. Il faut sans doute aller plus loin. Je proposais quelque chose tout à l'heure. Je pense que c'est jamais vain. Il faut qu'il y ait une affirmation de souveraineté, mais ensuite, surtout, il faut qu'on revienne à une logique de puissance. Que la France et l'Europe soient dans cette logique-là. Et malheureusement, elles ne le sont pas depuis des années. On a l'idée que le monde va être totalement pacifié par le marché, la technocratie et les normes. Faut retirer cette idée-là des élites européennes. Et sans doute, pour retrouver une logique de puissance, on ne le fera pas avec des commissaires européens et des organisations supranationales qui n'ont pas de poids. C'est quelque chose qui se fait par la coopération entre les chefs d'État, et y compris la défense européenne. Sans doute qu'il faut une défense européenne, mais pas avec une nouvelle organisation intégrée, comme on l'a fait avec l'euro, comme on l'a fait avec un tas de choses, et ça ne fonctionne pas. Mais il faut que la France, qui est en fait... on est la troisième, ça a été dit, en matière d'armement, on est numéro 3 pour le moment. Donc c'est à la France de défendre l'Europe. Il faut qu'elle fasse des investissements en manière
de défense. L'avion militaire du futur, on en fait beaucoup d'investissements, y compris militaires. Je crois qu'on ne peut pas reprocher à la France d'être extrêmement active là-dessus, et à l'Europe. Mais il faut réaffirmer notre ambition, et là je suis tout à fait d'accord avec les propos que vous venez de tenir, réaffirmer notre ambition. Le monde a changé, le monde change, de toute façon il faut en permanence s'adapter à celui-ci.
Mais on a l'impression qu'on court après parfois.
Oui, Peut-être que je pense que sur certaines choses, on est plutôt en amont de phase en France par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays. Et puis parfois, d'autres choses, devant la brutalité de l'acte des Américains, évidemment, il va falloir une réponse et française et européenne.
Patrick Karam.
Non, il faut se dire la vérité maintenant.
Vice-président de la région Île-de-France.
Nous avons pêché par...
Partons pas du principe que je ne vous dis pas la vérité, Patrick Karam.
Alors, si vous êtes senti concerné, c'est que vous avez beaucoup l'occasion de mentir. On vous pardonne. Nous avons en fait une sorte de, j'allais dire, de bon sentiment qui fait qu'on n'a pas armé nos entreprises. Vous savez que ça fait 30 ans que les États-Unis, et c'est très opérationnel depuis 15-20 ans, ont mis à la fois leur diplomatie et les services de renseignement au service de leurs entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les services de renseignement qui informent et qui font de l'espionnage, qui espionnent nos entreprises, qui tentent de déceler les contrats, qui essayent de savoir et de glaner toutes les informations. Et ce Patriot Act que vous avez mentionné, Monsieur Devecchio, c'est un élément de plus. Parce que dit ce Patriot Act? Vous êtes américain. Vous avez des intérêts américains, vous devez tout nous dire sur les contrats que vous avez. Ça veut dire que ceux qui travaillent aujourd'hui pour le gouvernement français, et je ne parle pas que des banques, ceux qui travaillent aujourd'hui pour conseiller le gouvernement français, qu'on a pu prendre sous tel ou tel aspect, ils sont obligés de rendre compte au gouvernement américain. C'est-à-dire que ce système de flicage, il est extrêmement dense.
Vous voudriez qu'on ait ça en France.
Alors moi, ce que je dis simplement, c'est que ce que les Américains font, il faut qu'on fasse la même chose avec nos entreprises. Il faut pouvoir...
C'est dans le programme de Valérie Pécresse ?
Il faut mettre, et ce sera dans son programme, vous inquiétez pas.
Vous allez lui souffler.
Il faudra, mais son programme, il faut qu'elle le dévoile elle-même. Je ne suis pas là pour parler de son programme. Mais il y a quand même un sujet.
On a le vice-président de Libre à table, on peut quand même lui poser la question.
Il y a un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est que nos services de renseignement et notre diplomatie, on n'a jamais réussi à tuiler le lien avec les entreprises. Il y a toujours cette réserve de nos diplomates.
Pourquoi ?
C'est la mentalité française. Voilà. Les diplomates, eux, dans la diplomatie, ils sont plutôt... Vous savez, on a voulu créer
sur
place...
C'est vrai, ça,
Sylvain Maillard. J'ai fait plusieurs postes diplomatiques et récemment.
Monsieur Maillard.
Bien que le gros des budgets... Non, mais je veux bien entendre ce que vous dites et c'est un
propos qui n'engage que vous. Mais c'est vrai qu'on parle du Quai d'Orsay comme une espèce de grimoire.
Le Quai d'Orsay, en tout cas, les bureaux à l'étranger sont organisés pour aussi donner de l'information et d'être en soutien...
Non, c'est des informations ouvertes. Ce sont des informations ouvertes. Par contre, l'espionnage d'entreprises étrangères, de gouvernements étrangers, on ne le fait pas au service de nos entreprises. Les Américains, eux, le pratiquent de manière systématique et de manière massive.
Mais deuxième élément, fasse, en fait
un échec de nos services de renseignement. Vous imaginez, 15 jours avant, deux ministres australiens et français signent une convention en disant, ben voilà, on va célébrer la coopération stratégique entre nos deux pays, et 15 jours plus tard, paf, vous apprenez les choses.
Oui, enfin, entre-temps...
On comprend bien. Non, c'est
Patrick,
pas entre-temps.
Mais non, mais
ça
entre-temps...
Ça s'est fait depuis longtemps.
Mais pas du tout.
Ce que je veux dire, c'est que nos services de renseignement...
Il y a des familles australiennes qui sont installées depuis plusieurs mois pour construire les sous-marins.
Nos services de renseignement ont failli.
Je vais faire pareil avec vous.
Nos services de renseignement ont failli. Et c'est ça que je retiens. Je dis qu'il faut maintenant que l'on dote nos services de renseignement de véritables moyens, parce que là, on fait d'échec en échec. Et ce n'est pas les premiers échecs que nous subissons sur la scène internationale.
Ludovic Toro.
Ouais. En fait, Joe Biden a arrêté la guerre militaire en Irak, en Afghanistan, et livre une nouvelle guerre.
Exactement.
Une nouvelle guerre qu'il a trouvée qui sera peut-être plus porteuse, parce que l'autre, elle n'arrivait pas, on ne s'en sortait pas. Donc, il a une autre guerre qui est assez urgente, donc il a trouvé ses alliés. Vous me disiez tout à l'heure, oui, on est les plus vieux alliés du monde. Ouais, elle est belle l'histoire. Et alors, moi, quand on me dit ça, mais on ne travaille pas avec moi, bah, t'es plus un ami, t'es plus un allié.
Non, je te file un coup de pied au cul et je te caresse en te disant, mais
c'est ça. Quand t'entends la réponse des États-Unis qui nous disent, vous êtes les plus vieux alliés, bah oui, mais on voudrait bien être ceux qui travaillent avec vous. Et surtout, comme disait Le Drian, on ne se prend pas comme ça un coup de pied aussi brutal. Maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est la réaction de la Chine. Parce que la Chine va bouger.
De quelle façon ?
Ah bah, y a plusieurs façons. Vous savez, je prends un exemple qui est propre à moi, qui est la médecine. Et je ne pense pas que la Chine s'attaque à la France. 80%, 85% de nos médicaments,
en principe actifs,
viennent de Chine. Imaginez deux jours, ils ferment. On fait comment ? On est tous sur le dos. cette dépendance que je décris depuis le temps au niveau sanitaire, mais j'attends la réaction de la Chine. Elle ne sera pas seulement, elle va faire quelque chose, c'est bien évident. Les Chinois, ils pensent d'abord. Ils réfléchissent.
Ils ont déjà réagi du point de vue diplomatique.
Gentiment, oui, et il y aura une autre réaction, vous avez raison.
Et la réaction de la Chine ne sera pas la nôtre.
Ah non.
Parce que la Chine n'a pas de, n'a pas de limite.
Patrick Karam, vous le savez, il n'y a pas d'Europe. Il n'y en a pas un qui est venu à notre aide en disant « Ah, oh, je te plains, même pas ça, non, même pas ça. »
Cher Ludo, ouais. Victoro,
ouais, mon,
ami, mon ami Ludo, on peut l'appeler comme ça. C'est pire que ça. Nous avons aujourd'hui des négociations qui ont été entamées en 2017 entre l'Union européenne et l'Australie sur un marché ouvert, un marché, une sorte de marché unique. Ces négociations ne sont pas interrompues, et pire, on interroge les responsables de ces négociations européennes, ils disent non, il n'y aura pas de conséquences à ce stade. On attend quoi ? On attend quoi pour qu'il y ait des conséquences ? On attend quoi pour que l'Europe se dise, il y a un moment donné, on ne peut pas rester bras croisés ? On a aujourd'hui un enjeu, soit l'Europe se construit en essayant de construire une grande puissance, soit l'Europe ne sert à rien.
Mais on dit ça depuis longtemps,
parce que c'est quand même un vrai problème. Ce qui a été dit sur les médicaments est très intéressant, parce qu'effectivement, admettons qu'il y ait vraiment un conflit entre l'Australie et la Chine. L'Europe pourrait-elle vraiment intervenir demain ? Non, puisqu'on est totalement indépendant. Comme ça a été dit, la Chine décide d'arrêter d'exporter les médicaments. Et c'est une
Mais est-ce que les États-Unis peuvent intervenir ?
C'est une catastrophe. Comment ?
Est-ce que les États-Unis, en revanche, peuvent intervenir ?
Les États-Unis, oui, ont plus les moyens d'intervenir. Et c'est pour ça que les Australiens ont choisi les États-Unis. Mais ce qui est révélateur pour nous, c'est que nous aussi, je pense qu'on est en guerre contre la Chine. Moi, je suis plutôt gaulliste et plutôt pour que l'Europe, finalement, soit dans une position d'indépendance entre le bloc chinois et le bloc américain, comme pendant la guerre froide, en quelque sorte. Mais il se trouve quand même que je pense que la menace prioritaire aujourd'hui pour l'Europe est la Chine, qu'on s'est mis dans une situation de dépendance économique affligeante et qui en plus a des conséquences sur l'emploi dans nos pays qui sont catastrophiques. Donc il faut se ressaisir et se mettre en ordre de bataille pour retrouver un minimum de souveraineté face à ce bloc chinois.
Oui, moi, j'ai mon frère vit en Australie depuis 20 ans. Je l'ai appelé, je lui ai dit, t'as quelle vision de ça ? En fait, la vision, elle est claire. L'Europe n'existe pas et la France est un pays qui ne donne pas une bonne image à l'extérieur.
Tout ce Pourquoi qu'on
a pu... Parce que vous l'avez bien vu, ces manifestations, toutes ces choses-là, ça ne donne pas une grandeur au pays, qu'elles soient légitimes ou pas légitimes. Ça fait quand même un an et demi, en dehors de la crise, il y a toujours des manifestations tous les week-ends. Et c'est vrai que pour les autres pays qui sont forts, l'Australie, c'est assez carré, si vous avez pu y aller, ce n'est pas une bonne image. Donc l'Europe, pour eux, est faible, pour les Australiens. La France, voilà, elle reflète ce qu'on voit sur les images. Donc, moralité, ils s'approchent des durs. Et les durs, c'est les États-Unis avec Joe Biden qui est arrivé. Et l'Angleterre, qui se sort très bien de ce Brexit, quand même.
Hein. Bah oui.
On nous disait, attention, ça va être la fin, ils ne pourront rien vendre. Excusez-moi. Qui c'est qui a fait le bon choix ? C'est eux. Ils s'allient avec Angleterre. Tous les anglo-saxons sont ensemble.
Je ne vais pas laisser passer ça. Enfin, Ludovic Thoron, il est dans un mouvement, l'UDI, qui a porté mais... les valeurs européennes depuis un quart d'heure. C'est l'Europe, c'est nul. Je voudrais rappeler quand même aux fondamentaux. Est-ce que tout va bien en Europe ? Non. Est-ce que l'Europe nous protège de beaucoup de choses ? Oui, on va peut-être aller sur d'autres sujets, on va pouvoir voir. Est-ce que tout va bien ? Non. Est-ce que les États-Unis se sont bien comportés ? Non. Est-ce que la Chine est notre adversaire ? En tout cas, c'est un rival économique, très clairement. Et on peut pas. Et à un moment, vous savez quoi ? C'est pour ça qu'à mon avis, les États-Unis ont fait une erreur. C'est qu'à un moment, ils ne peuvent pas faire le choix de montrer que finalement, avec leurs alliés, leur allié le plus ancien, ils ne se comportent pas de façon fair play. On va prendre un mot anglais.
Voilà.
De façon fair play. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Ils disent, s'ils sont capables de faire ça aux Français, ils vont être capables de faire ça aux autres. Et donc, au fond, quelle est la valeur de la parole des Américains ? Je crois qu'ils se sont affaiblis là-dessus. Et c'est pour ça que je suis très optimiste dans les jours qui viennent. Je crois qu'il y aura une réponse américaine qui, je crois, assez...
Non, mais alors... Ludovic,
et vous verrez qu'il y aura une réponse, à mon avis, américaine, adaptée à ce qu'ils ont fait.
Un mot chacun.
Sylvain Maillard vient de découvrir la dureté du monde du business. Les Américains, c'est un peuple de business. C'est pas des pimpes intellectuels qui conceptualisent, qui vont dire attention, il y a ça, ils vont penser ceci, et mon Dieu, quoi. Ils sont pas dans cette logique-là. C'est très concret, très pragmatique. Et deuxième élément que je vous dis, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas notre ennemi. Moi, c'est pas du tout ce que dit le président de la République. C'est le premier président à avoir conceptualisé une relation indo australo-française contre la Chine, le premier à l'avoir exprimé. Quand il est allé aux Nouvelle-Calédonie, il a pris soin d'abord de partir en Inde, ensuite en Australie, et il est arrivé en Nouvelle-Calédonie, et le premier ministre australien lui avait dit, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est la Chine qui prendra pied sur le territoire. La vérité, c'est que lui, il s'est positionné dessus. La vérité, c'est que c'est le premier président que j'entends, alors qu'on sort d'une longue période, on c'est je t'aime, moi non plus, c'est des non-dits entre les puissances, c'est l'incompréhension, mais tout ça masqué. On sort donc d'une longue période où rien n'avait été formalisé. Il a formalisé le fait qu'il faut faire des alliances et que lui, il est partie prenante de cette alliance avec nos territoires d'outre-mer.
Il faut
lui,
en faire une avec, avec la Russie aussi, parce que je crois qu'une Europe qui pèse, ce sera une Europe avec les Russes, pas dans une organisation intégrée. Enfin, le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Je pense qu'il ne faut surtout pas que les Russes tombent du côté chinois. Et donc, il faut... voilà, on a beaucoup tapé sur Vladimir Poutine ces dernières années. Je pense que c'est un régime qui n'est pas parfait, mais le régime chinois est beaucoup plus inquiétant.
Un droit de réponse à M. Maillard qui me dit l'UDI. Mais attendez, bien sûr que l'UDI, c'est pour l'Europe. Et quand ça ne marche pas, il faut le dire. Pas parce qu'on est les créateurs, nous, d'une volonté européenne, quand ça marche.
Mais non, j'ai dit que le Brexit, c'est en fait les Anglais qui avaient raison. Et
non,
de
j'ai
partir.
Dit qu'ils. Mais non, j'ai
est-ce
pas
que
dit
que.
Non, j'ai dit qu'ils avaient réussi.
Vous avez dit,
c'est la mort. Non, mais de toute façon, écoutez-moi. De toute façon, je ne suis pas là. Je vous dis aujourd'hui que l'Europe, en effet, c'est l'UDI. On la défend. Là, ça ne marche pas. Mais je vous rappelle quand même quelque chose. Qui préside la France aujourd'hui? C'est vous qui êtes dans l'Europe, donc. Vous n'avez rien fait depuis 5 ans. C'est de votre faute. Donnez le pouvoir à l'UDI et on verra comment on traite l'Europe avec un président qui est UDI. Vous êtes à la tête. Vous n'avez pas réussi depuis 5 ans à faire une Europe qui nous défend.
Sur le... Attendez, juste ouais, un droit de réponse.
C'est partagé.
Victor, là, il essaie de retomber.
Moi, je ne retombe pas, je vous réponds.
Attendez. Silence. Sylvain Maillard, s'il vous plaît.
Sur la défense européenne, je crois que c'est une des valeurs que nous partageons en disant qu'on veut depuis si longtemps construire une défense européenne. Ce qui est très clair, c'est que les pays européens sont des pays très différents, avec une perception de ce qu'est l'armée, de ce qu'est la réponse militaire, avec une histoire différente et une perception compliquée. On n'aura pas une armée européenne unifiée. Ça n'existera pas. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Par contre, des coopérations technologiques, parce que la vérité, c'est que c'est la technologie qui change tout. Si vous avez un avion de combat qui est autonome, qui est capable de se projeter sans l'aide américaine ou d'un autre pays, évidemment, ça change tout. Si vous avez du matériel sur le sol, au sol, des chars qui sont capables d'être autonomes, ça change tout. Et c'est là où l'Europe peut agir. C'est là où on peut concrètement changer les choses. Et c'est là où on a changé les choses et on avance technologiquement.
Sylvain Maillard, Ludovic Toro, Patrick Karam, Alexandre Devecchio sont à table dans un instant. On parle d'Anne Hidalgo qui prend le large avec son parti, le PS. Elle a séché le congrès au cours duquel Olivier Faure vient d'être réélu. Anne Hidalgo va en guerre. On en parle avec nos débatteurs. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et nous sommes ensemble avec le député LREM de Paris, Sylvain Maillard, ex-UDI, puisqu'il vient de le rappeler, le maire UDI de Coubron, Ludovic Toro, avec le vice-président libre, le parti libre de la région Île-de-France, et Patrick Karam et Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro. Que fait Anne Hidalgo depuis qu'elle est officiellement candidate? Ses faits et gestes sont évidemment scrutés au millimètre. Alors, quand la maire de Paris s'abstient de venir au 79e congrès du Parti Socialiste, sa famille politique, réunie pour réélire Olivier Faure, l'un de ses premiers soutiens. Alors, ça fait jaser. Anne Hidalgo a aujourd'hui choisi d'être auprès de ses militants parisiens. Serrage demain au marché d'Aligre. Hier, elle était au Creusot, en Saône-et-Loire. Et déjà, elle savait qu'elle sécherait le congrès.
Pour ce qui me concerne, je suis là où je suis utile. Je l'ai dit, je suis fidèle à mon parti, mais je suis très libre et je pense qu'il faut que je sois là où je suis utile. Et là où je suis utile, c'est plutôt dans la rencontre avec nos concitoyens.
Mais les militants, il y en aura. Les militants seraient contents de vous voir. Olivier Faure, sans doute aussi.
Ils sont très contents et moi aussi, je suis contente de les voir. D'ailleurs, il y en a plein ici. Et il n'y a pas de sujet entre moi-même et les militants. Et je crois que vous l'avez très bien vu aussi à Blois.
Anne Hidalgo au micro de Jean-Luc Beaujon au Creusot, c'était hier. Vous souriez, Alexandre Devecchio.
Non, parce que j'entendais les échanges entre les deux UDI qui se poursuivaient.
Le débat n'est pas clos.
Antenne qui semble se réconcilier sur le dos de.
Bon, sur Anne Hidalgo.
Non.
Et on parle de cette différenciation. Moi, je ne partage pas l'avis que j'ai entendu. Et c'est la première fois que nous sommes en désaccord, Charles.
Il y a toujours une première fois, vous savez, Patrick. C'est comme ça.
Toujours.
En amour aussi.
Et parfois, ça se passe bien.
Sylvain
Maillard. Eh bien, non, mais juste un mot. Ce désaccord-là, il vient de façon très simple de l'analyse de la situation. Anne Hidalgo prend des distances avec un parti parce qu'elle sait que, et le premier secrétaire l'a dit, vous m'élisez, vous élisez, et vous votez ma motion, vous votez pour Anne Hidalgo.
Oui,
elle considère que c'est un parti godillot sur lequel elle peut s'essuyer les pieds. Bon, allez, je vais être poli. Elle va s'en servir comme marche-pied et que de toutes les façons, ils seront à ses côtés. Bon, c'est un manque, c'est un mépris pour ces militants
ça,
mais
oui,
c'est quand même un problème.
Mais combien
côté
de militants
républicains, qu'est-ce qui se passe côté républicain aujourd'hui? Moi, j'ai plutôt l'impression que le parti républicain est en train de redonner le là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Valérie Pécresse, dès le départ, a dit « Moi, je crée Libre, mais Libre, ce n'est pas un parti contre les Républicains. » Et nous avons beaucoup de militants et beaucoup d'élus en commun. Et c'est la vérité. Et deuxièmement...
Il y a beaucoup de deuxièmement.
Et deuxièmement, sur Valérie Pécresse, elle a signé toutes les motions et dit qu'elle rentrait dans le jeu. Celui qui jouait le côté mauvais canard, enfin, voilà, celui qui se mettait en dehors du parti est revenu dans le giron. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé aux journées parlementaires? Xavier Bertrand est allé aux journées parlementaires. Bon. Xavier Bertrand est intervenu et il a dit « Je ne ferai pas perdre mon camp ». Et puis, il a besoin des 12 millions du parti pour le premier tour.
Non, mais Patrick,
voilà.
vous avez raison. Techniquement, j'ai envie de vous dire. Mais je crois que ce que vous avez fait comme démonstration est quelque chose qui lasse beaucoup les électeurs. Ce spectacle des tractations entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, je crois, est un spectacle où on ne fait plus malheureusement de politique au sens noble. Et vous avez rappelé l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple et un homme. Et on a peut-être un peu oublié le peuple dans l'affaire depuis de nombreuses décennies. Et ça, c'est pas
ni
Valérie
Xavier
Pécresse,
Bertrand,
ni Xavier Bertrand.
Aucun des candidats ne l'a oublié.
Sur cette incarnation, et je me tourne vers Sylvain Maillard, LREM, c'est assez amusant parce que si on se souvient de la campagne de 2017, finalement, Emmanuel Macron est arrivé assez tard parce qu'au début, et ses lieutenants, dont Benjamin Griveaux, je me souviens très bien, disaient « Non mais d'abord, il y a le diagnostic de la France, etc. L'incarnation vient après. » Ce qui était d'ailleurs une sorte de passe d'armes. Je me souviens très bien d'une interview que j'avais faite de Benjamin Griveaux qui disait que mais non, l'incarnation, ce n'était pas important. Alors, incarnation, programme, parti, qu'est-ce qui arrive en premier? Là, en l'occurrence, et vous le dites, Patrick Karam, Anne Hidalgo s'en va en guerre, elle laisse le parti et elle compte sur elle-même.
Non, elle compte sur le parti, puisque c'est parce qu'elle a le parti avec elle
qu'elle s'en sert comme marchepied. C'est ce que vous avez dit.
Je ne sais pas si elle s'en sert comme marchepied. Moi, je ne suis pas le grand spécialiste du Parti Socialiste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'image du Parti Socialiste, c'est 6% aux élections présidentielles. Et donc, un candidat qui aurait... d'ailleurs, elle ne mettra pas du tout le logo même du Parti Socialiste sur ses affiches. Un candidat
Marine
qui dirait...
Le Pen ne met pas le logo du RN sur son
affiche
non
mais
plus.
Oui, d'ailleurs, c'est une question plus générale. Mais en tout cas, Marine Le Pen est potentiellement au deuxième tour, ce qui n'est pas du tout le cas d'Anne Hidalgo. Donc, elle doit avoir une autre stratégie. Elle ne va pas mettre le Parti Socialiste en avant. Mais comme l'a dit Patrick Carin, mais il l'a dit de façon très claire, il ne faut pas mentir. Anne Hidalgo n'est pas capable de faire une campagne sans le soutien des militants socialistes partout en France. Et là, il y a encore des militants. Mmh. Et donc, elle a besoin de ce soutien-là et elle a besoin des signatures. Vous avez raison, parce qu'il faut quand
et
même...
Des sous.
Et des sous. Et les sous, ils viennent des partis. Donc, évidemment...
Sauf quand il n'y en a pas avec Emmanuel Macron.
Alors, exactement. Ce qu'a fait en 2016-2017 Emmanuel Macron, c'est-à-dire de s'émanciper de ça et d'aller chercher de l'argent, ça demande une vraie organisation. C'est extrêmement difficile. Et les autres candidats voient bien que c'est quasiment impossible à réaliser, d'ailleurs. Ce qui montre la performance de ce que nous avons réalisé.
Mais ce qu'il a réalisé, lui, sans vous, non mais très honnêtement,
bien sûr,
mais
Patrick Karam,
arrêtez de ramener à nous. Le mouvement macroniste, c'est Macron, point.
Patrick Karam,
c'est le chaos, le déluge.
Moi, je ne vais pas rentrer dans vos débats entre vos concours de beauté entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Je vous laisse défendre ça.
Permettez à un commentateur politique de regarder ce que vous avez fait. arrivé.
N'ayez pas, n'ayez pas le message d'expliquer qu'après Emmanuel Macron, il n'y a rien, le déluge et que nous sommes rien à côté. Je pense qu'il y a une majorité qui le soutient, avec des députés, avec des élus. Vous êtes en opposition et vous avez tout à fait le droit. C'est une opposition et très claire. Mais moi, je ne me donne pas le droit de dénigrer ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse. S'il vous plaît, respectez aussi ceux qui s'engagent à côté. Et Emmanuel Macron n'a pas fait une campagne uniquement. Bien sûr, on était derrière lui, mais il n'était pas seul. Et on a,
la
c'est un mouvement
municipal
que nous avons incarné.
Et au régional, au départemental, c'est quoi?
Et derrière...
C'est quoi? Non, mais dites-moi. Non, mais c'est vous. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a Emmanuel Macron d'un côté, bien identifié dans l'opinion publique, comme étant un moteur, et puis il y a tous les autres. Et les gens sentent bien qu'il y a une sorte de déphasage entre Macron et les autres. Macron, ben Édouard Philippe n'était pas candidat, et puis un jour, il s'émancipera de tout ça.
Non, mais
nous en reparlerons.
Mais en 2027,
il n'est pas en marche.
L'idée qu'il n'y a personne, que Emmanuel Macron est rien dans ce mouvement de la majorité présidentielle, je crois, est une erreur, est une mauvaise analyse. Et dès que je commence à vous dire des noms, oui, effectivement, oui, ce sont des noms qui sont plus populaires.
Et
que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand.
Il est chez En Marche.
Il soutient le président de la République.
D'accord.
Il a été son Premier ministre pendant 3 ans.
On parlait de votre parti.
Et il a pris la parole la semaine dernière pour redire son soutien. Et qui
on
sera aux côtés du président
que vous avez rejoint après beaucoup de pérégrinations politiques.
La présidentielle, Ludovic Toro.
Oui, rappelons les choses, et vous serez d'accord avec moi, monsieur l'ex-UDI, que 95% des militants ont déserté le parti au niveau de la France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de section, il n'y a plus rien. Ça, c'est pas dit par moi, c'est dit par les militants LREM. Deuxième chose, Macron a été élu grâce à un réseau financier. Et les autres
vous,
sont
vous cherchez à vous rassurer, là, en fait,
Ah, moi, je comprends pas.
Non, mais j'ai
un peu
à vous rassurer.
Je peux finir.
Et puis on a un président qui a jamais été aussi haut dans les sondages.
Laissez-moi finir.
Vous allez vous défendre.
Ludovic Toro.
Merci beaucoup. Ce sont les Françaises et les Français qui décideront.
Bien sûr.
Mais ne pouvez pas nier que l'élection de Macron ne s'est pas faite sur un parti politique qui n'existe pas et qui n'existe plus. Mais seulement pour ce réseau financier. Ça, tout le monde
mais
le
non.
sait. Ah bon
mais c'est
l'argent est tombé comme ça.
Bah,
non,
vous croyez que la vie politique n'a pas besoin de financement?
Vous croyez qu'il n'y a pas de financement, l'UDI? Non, mais sérieusement, vous me posez une question dans les yeux. Je vais vous répondre. La différence, regardez-moi dans les yeux, c'est les adhérents qui payent les partis politiques. Vous, c'est d'autres personnes et les banques qui payent. Voilà la différence entre les deux.
Oui, mais les partis politiques sont.
Il y a une règle très claire, c'est les dons au maximum des dons de Français et qui sont déclarés et qui sont au maximum de 7 500 € par an. Non, mais que les Français le sachent. Et par contre, pour une campagne, ça va être de 4 600 euros.
Elle va être un peu longue.
Non, mais je vais terminer là-dessus. Honnêtement, ce côté, c'est les banques qui financent ou la grande puissance,
mais
le grand capital. Honnêtement, mais. Ne dites pas
bon,
ça. Vous savez quoi, ça a des relents. Je ne voudrais pas utiliser ces mots-là, mais ça a des relents qui me sont extrêmement désagréables. Il y a une règle, elle est suivie par nous. Vous pouvez faire la même chose, mais évidemment, l'UDI, n'ont pas le même aura que les nôtres. C'est comme ça.
C'est sûr. Nous, on n'a pas perdu 95% de militants en 5 ans.
Mais vous n'en avez pas militants.
Les amis, Ludovic Toro et ensuite Alexandre Devecchio.
Madame Hidalgo ne pourra pas se passer de certains verres pour gagner, donc c'est normal qu'elle n'aille pas au PS. Il faut qu'elle ouvre à fond. C'est pas avec ses 2-3% qu'elle va gagner. Donc elle faudra qu'elle tape large. Donc on va voir ce que font les verts qui vont décider s'ils vont mettre une extrémiste ou pas.
Ça sera demain.
Ça sera demain. Mais bon, le but, c'est qu'ils ne s'allient pas, même en rêve, quoi. C'est pas possible.
Non, bah ça, on est d'accord sur cette analyse. Sur Emmanuel Macron, effectivement, il a bénéficié sans doute des banques, etc. Enfin, mais les partis politiques passent aussi par les
banques
du monde de la finance.
Des Français, du monde de la finance. Les dons particuliers.
On connaît la logique des micro-partis, que les 7500.
Mais c'est interdit.
Il y a moyen de contourner la loi, mais les partis politiques, c'est pas vrai ce que vous dites,
c'est faux.
La contourner, on crée Souvent, il y a un même financier, on crée un maximum de structures pour pas qu'il ait à faire un chèque de plusieurs millions d'euros. Et ça, c'est pratiqué par Macron, comme les autres partis, et c'est pas le débat. Et c'est pas le débat
non,
du jour.
C'est faux, c'est faux.
On verra ça dans quelques mois.
De toute façon, à chaque fois qu'on parle d'argent,
mais moi, je pense qu'Emmanuel Macron...
est très clair, je peux pas pourquoi on essaye de... Excusez-moi, Alexandre de Vecchio, la règle est très claire, elle est appliquée par l'ensemble des partis, et j'ai aucun doute sur le fait que les autres partis qui ne sont pas les miens appliquent la même règle. Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de mettre un doute là-dessus. Il y a, dans le monde, il y a plein de zones de doute. On vient de parler d'un vrai problème avec les Américains que nous avons à l'heure actuelle. Ne mettons pas des doutes sur ce que nous sommes. On a une loi qui est très claire et tout le monde l'applique. Et que, quels que soient les candidats, arrêtons d'imaginer qu'il y a un fantasme d'argent qui sortirait.
Anne Hidalgo, moi je pense que... oui, Anne Hidalgo, mais ce qu'on a dit, peut-être Mistel sur la victoire de Sandrine Rousseau, qui ne paraît pas du tout improbable, et en se disant qu'elle pourrait récupérer l'électorat des Verts, qui serait un électorat moins radical. Donc,
mais
effectivement, elle
passe,
a besoin d'élargir la base du Parti Socialiste, qui est très, très étroite en réalité.
Mais comment ça se passe justement? Vous parlez de la victoire éventuelle de Sandrine Rousseau. Comment est-ce que ça se passe ensuite avec Anne Hidalgo?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des alliances possibles, mais si Sandrine Rousseau fait 1%, il y a un électorat qui potentiellement aurait pu voter pour les Verts qui est à récupérer. Donc Anne Hidalgo peut potentiellement le récupérer. Donc oui, quand on a une base électorale étroite, on cherche à l'élargir au maximum. D'ailleurs, mais c'est aussi le cas de Xavier Bertrand ou peut-être même de Valérie Pécresse quand elle a choisi d'aller à Libre plutôt que de s'en tenir simplement à LR, de montrer qu'ils ne s'adressent pas seulement aux militants, aux sympathisants. François Fillon avait fait une très belle primaire, était arrivé en tête. Il y a eu les affaires, je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été au second tour, mais on a bien senti qu'après la primaire, c'était quand même plus difficile parce que entre la base du parti, la base militante et des sympathisants et l'ensemble des Français, il y avait un décalage. Donc voilà ce que fait Anne Hidalgo, ça me paraît être stratégiquement juste, même si un peu irrespectueux effectivement des militants, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément aujourd'hui de militants au parti socialiste, c'est devenu aussi un parti d'élus.
Patrick Carême.
Alors, une remarque quand même.
En 30 secondes.
On l'a tous oublié, mais il y a eu des primaires entre les deux partis. Quand Anne Hidalgo a envoyé Pulvar, elle a dit c'est les primaires qui vont se jouer, Audrey Pulvar, il faut passer en tête, il faut battre Europe Écologie Les Verts, et qui est passé en tête? Bayou. Voilà. Et donc là, elle ne peut pas aller dire aux écolos, messieurs, rangez-vous derrière mon étendard, ça ne marche pas. Ils ont perdu la primaire en Île-de-France. Donc, la messe, quelque part, est dite. Le sujet d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle n'a aucun réservoir de voix à gauche et qu'il faudra passer le premier tour.
C'est ce qui vient
et que ça paraît extrêmement compliqué.
Et c'est ce qui vient d'être dit avec Alexandre de Vecchio, qui reste autour de cette table en même temps que Patrick Carême, Ludovic Thoreau et Sylvain Maillard. Dans un instant, on parle des chasseurs qui déferlent contre le parisianisme ambiant et surtout contre une décision du Conseil d'État. Et puis un petit courrier de l'APHP alertant sur un éventuel vol de vos données si vous avez passé un test PCR à la mi-2020 en Île-de-France. Ça concerne quand même 1 400 000 personnes. On revient à 19h15 avec les débats d'Europe Soir. Dans un instant, c'est le journal.